France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 1er juillet. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution de l'air avec d'importantes restrictions de circulation à Paris et en Île-de-France pour les véhicules les plus anciens. Exemple à suivre, même si toutes les communes ne sont pas prêtes à jouer le jeu. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Et le premier bilan d'une semaine de canicule en juin. Nous serons en direct de Bruxelles pour un dernier point sur les discussions autour des postes clés de l'Union. Le dessinateur portugais par qui le scandale du New York Times est arrivé témoigne sur France Inter. Et puis 50 expositions pour les 50 ans des rencontres photographiques d'Arles.
Les invités d'Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
70, le chiffre barrait la une du Parisien hier matin. 70 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. En France, oui. En France, Emmanuel Macron avait promis de faire de la cause des femmes la grande cause nationale du quinquennat. Qu'en est-il des résultats ? Parole à deux femmes ce matin, Céline Lelivret, qui a été victime pendant 7 ans des coups de son compagnon, et Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des Femmes.
A tout à l'heure Léa, à 8h20, le Mercosur, le CETA, deux traités de libre-échange sont à la une pour en parler ce matin parce qu'ils sont violemment contestés, assez peu défendus. Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, il est dans le grand entretien tout à l'heure. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Hasard du calendrier, au moment où la circulation différenciée s'arrête à Paris et Strasbourg en raison de la fin de l'épisode de canicule, c'est un autre dispositif qui entre en vigueur en ce 1er juillet. Un dispositif qui concerne pour l'heure l'Île-de-France, mais qui pourrait un jour s'étendre à d'autres agglomérations. Les véhicules légers et utilitaires portant la vignette critère 4 n'ont plus le droit de circuler dans Paris entre 8h et 20h du lundi au vendredi. Et les véhicules portant la vignette critère 5, déjà interdits dans la capitale, ne peuvent plus désormais circuler sur le périphérique et dans 47 des 79 communes à l'intérieur de la 86 qui ont choisi de faire partie de cette ZFE, zone à faible émission. Mais d'autres communes, comme Clamart dans les Hauts-de-Seine, jugent la mesure injuste et trop contraignante. Reportage de Delphine Evenoux.
Au volant de son fourgon de 1992,
c'est un bon camion, hein.
Johan Primeur charge à Rungis, puis fait les marchés de Clamart. Il a regardé pour changer.
Un camion donc d'occasion, c'est 15 ou 20 000 euros. Et tout neuf, c'est 60 ou 80 000 euros.
Soit 5 000 euros minimum à débourser avec les aides, sans compter sa voiture personnelle, trop vieille aussi.
Donc là, s'il faut que tout je change, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, après ça, je m'en fous. Hein. Je les prends, les amendes.
Une mesure injuste, c'est l'argument principal du maire de Clamart,
Jean-Didier Berger,
qui a dit non d'emblée aux restrictions.
On sort de 6 mois de gilets jaunes. Est-ce qu'on veut revivre la même chose à ceux qui ont déjà un crédit sur la maison, déjà un crédit sur les études des enfants, dire du jour au lendemain, vous allez devoir mettre ces véhicules à la poubelle purement et simplement? Est-ce que c'est ça l'écologie moderne qu'on nous propose? Moi, en tout cas, je ne peux pas l'accepter.
Inconscience, réplique Roland Rabot. Il fait partie de l'association Clamart Citoyenne et d'Europe Écologie Les Verts.
Alors, en tant que Clamartois, la pollution, bon, à l'odeur, on la mesure pas franchement. Maintenant, il y a les chiffres qui tombent et qui sont impitoyables. Les dernières études d'Air Paris, qui ont été synthétisées par l'ADEME, montrent que la surmortalité en France est de l'ordre de 60 000 personnes par an. Pour l'Île-de-France, ça fait à peu près 10 000 personnes. Et pour une commune du type de Clamart, sur une règle de 3, c'est environ une surmortalité de 40 personnes par an.
Selon l'Observatoire régional de santé, entre 110 et 340 décès par an pourraient être évités avec l'instauration de la ZFE dans le Grand Paris.
Et à noter que 5 des 6 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en alerte 2 pour la pollution à l'ozone aujourd'hui et que la circulation différenciée pour cause de canicule reste en vigueur aujourd'hui à Annecy, Lyon et Villeurbanne, car 13 départements restent ce matin en alerte orange canicule dans l'est et le sud-est du pays où les 40 degrés sont encore attendus localement. Bilan d'une semaine hors norme avec Alice Cachaner.
L'activité dans les hôpitaux a été soutenue, plus 4% lors du pic de chaleur dans les établissements parisiens. Pour autant, il n'y a pas eu de débordement, comme l'explique Jérôme Salomon, directeur général de la santé.
La chaleur a représenté au pic de la canicule environ 3,5% de l'activité totale de SOS médecins et moins de 2% du total des passages aux urgences. Ça veut dire que quand il y avait 100 personnes qui passaient aux urgences, il y en avait 2 ou 3 qui venaient pour des pathologies spécifiquement liées à la chaleur.
Contrairement à 2003, cet épisode de chaleur n'a pas touché les personnes âgées en particulier. Mais attention, les effets de la canicule peuvent être différés. Bertrand Prudhommeau de l'Agence régionale de santé Occitanie nous met en garde. La chaleur peut faire des victimes, même après une baisse des températures.
On ne baisse pas la garde. Les organismes ont été fatigués, sollicités pendant ces jours de canicule. La récupération a été plus mauvaise, les nuits plus difficiles. Donc ça veut dire que les organismes, malgré tout, sont fragilisés. Donc c'est particulièrement vrai pour les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, très jeunes enfants, les femmes enceintes. Et puis même pour la population générale, il faut avoir un certain niveau de vigilance.
Le taux de surmortalité lié à cette vague de chaleur ne sera pas connu avant fin juillet.
Une canicule qui, rappelons-le, a entraîné le report du brevet des collèges. Et c'est donc aujourd'hui et demain que plus de 700 000 élèves de 3e passent les épreuves. Au menu aujourd'hui, maths et français, avant histoire géo et sciences, demain. Et puis parmi les autres changements ce 1er juillet, le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h et c'est d'ores et déjà à lire sur franceinter.fr. Et puis la mise en place d'un congé paternité allongé de 30 jours pour les papas dont l'enfant est hospitalisé à la naissance ou né prématuré.
Il est 7h06. Agnès, direction Bruxelles où les négociations patinent.
Les 28 chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés hier soir pour tenter de se mettre d'accord sur la répartition des postes clés de l'Union. Un projet d'accord semblait avoir été trouvé en marge du G20 au Japon, mais visiblement rien ne se passe comme prévu, malgré la volonté affichée par la France et l'Allemagne de parvenir rapidement à un accord. On rejoint tout de suite en direct de Bruxelles Angélique Boin. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors le dîner a débuté en retard, les discussions ont ensuite été suspendues. Qu'est-ce qui coince ?
Eh bien, un compromis s'était en effet esquissé, vous l'avez dit, à Osaka, autour du couple franco-allemand, mais c'était sans compter hier sur un tir de barrage au sein même de la famille politique d'Angela Merkel, la droite européenne. La droite, sans qui aucune majorité n'est possible, acceptait de lâcher la présidence de la Commission au profit du chef de file des socialistes, Frans Timmermans, et cela en échange de 2 des 5 postes clés à pourvoir dans les institutions. Un deal refusé, donc dans un premier temps, en tout cas par les alliés de la chancelière, pour au moins 3 raisons. Pas question pour certains de lâcher la Commission, poste le plus stratégique à la tête de l'Europe. Frans Timmermans, c'est par ailleurs la bête noire de certains dirigeants de l'Est, dont le Hongrois Viktor Orban, actuel vice-président de la Commission. Le Néerlandais a initié, rappelons-le, les procédures contre les violations de l'état de droit dans leur pays. À l'Est, on lui préfère donc le Français Michel Barnier. De sources européennes, on indique enfin que certains dirigeants n'ont pas aimé se faire dicter un compromis négocié entre grands pays à Osaka. Alors à cette heure-ci, il n'est pas mort, mais les cartes ont néanmoins été totalement rebattues hier soir, et un cycle de négociations nocturnes enclenché, il n'est pas fini. On ne sait pas si les 28 vont trouver un accord dans la matinée ou fixer une date pour un nouveau sommet.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles avec Laurent Lucas pour les moyens techniques et on vous retrouvera évidemment dans le journal de 8h pour faire un nouveau point sur ces discussions. Nouvelle manifestation dans les rues de Hong Kong ce matin et nouvelle répression des forces de l'ordre. Chaque année, la date anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le 1er juillet 1997, donne lieu à une forte mobilisation des démocrates et cette année, la manifestation se déroule dans un contexte tendu sur fond de projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Pour disperser ce matin les premiers manifestants qui tentaient de bloquer plusieurs artères de la ville. La police a utilisé matraques et gaz poivré. Fini les caricatures dans les éditions internationales du New York Times. Décision prise après la polémique suscitée fin avril par la publication d'un dessin représentant un président américain aveugle, conduit par un chien guide au trait de Benjamin Netanyahou. Métaphore du soutien américain à la politique d'annexion des territoires palestiniens. L'auteur de ce dessin, le caricaturiste portugais Antonio Antunes, lui ne regrette rien, si ce n'est la décision du quotidien. Il s'est confié à Louise Baudet.
Une étoile de David et une kippa, symbole politique ou religieux. Les juifs sont-ils une nouvelle fois représentés comme tirant les ficelles ? En un mot, le dessin d'Antonio Antunes est-il antisémite ?
On ne doit pas mélanger les choses. C'est un dessin qui est contre la politique d'Israël vis-à-vis de Palestine. Et c'est seulement ça, c'est pas contre les juifs.
Le New York Times, lui, a présenté ses excuses, puis annoncé qu'il ne publierait plus de caricatures. Décision d'autant plus frappante qu'elle est prise par un journal de référence salué pour le pluralisme de ses pages débat. Preuve qu'un dessin de presse est plus fort qu'un éditorial, selon Antonio Antunes.
Avec les textes, tu peux changer un mot, tu peux changer une phrase. Avec les dessins, c'est plus difficile de contrôler. Et dans ce moment politique aux États-Unis, avec le fondamentalisme politique, c'est très difficile de maintenir le cartoon dans la presse.
Le cartoon ou dessin de presse menacé par le trumpisme et les réseaux sociaux.
L'histoire de mon dessin au New York Times a commencé pour un Twitter du fils de Trump qui a dit « Ouh là là, il est un dessin antisémite, horrible, terrible !» Et puis, Tout le monde marche dans la même direction. Ça, c'est une victoire de Trump.
Victoire contre le New York Times et contre la liberté d'expression, selon Antonio Antunes, inquiet à l'idée que la caricature soit également bannie des colonnes des journaux européens.
À 6 jours du départ, il réclame un Tour de France propre. Pas question ici de dopage, mais de pollution. 34 députés et 6 ONG demandent que les gadgets publicitaires en plastique soient bannis de la grande boucle, jetée par millions par la caravane. Ils finissent souvent dans les champs et les rivières. Et c'est le député écologiste des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, qui porte ce combat.
La caravane va distribuer 18 millions d'objets publicitaires, dont probablement la moitié sont à base de plastique, des gadgets, un porte-clés, c'est un jeton de caddie ou je ne sais trop quoi, ce dont on n'a absolument pas besoin, et qui vont, dans le meilleur des cas, finir dans une poubelle, dans le pire des cas, vont rester là, en terre, ou vont partir avec l'eau du ruisseau, l'eau de la rivière, finir en mer. Le plastique perdu dans les océans, c'est pour plusieurs siècles, c'est un risque sur la biodiversité, sur la chaîne alimentaire, c'est un risque majeur. Ça devient aberrant qu'on continue à distribuer des gadgets en plastique sur le Tour de France, qu'on peut faire autrement, la caravane publicitaire.
Et départ du Tour de France le 7 juillet depuis Bruxelles. Adrien Rabiot à la Juve, ce ne serait qu'une question d'heure. Le joueur écarté du PSG depuis décembre est arrivé à Turin hier. C'est le club qui a tweeté une photo de l'international français. Et puis côté tennis, premier coup de raquette aujourd'hui sur le gazon de Wimbledon avec deux grands favoris cette année, Novak Djokovic et Roger Federer.
Et pour finir, Agnès, le bel âge des rencontres de la photographie d'Arles.
50 ans que les amoureux de la photo professionnelle, amateur et public se croisent au gré des expositions, des soirées, des stages, des ateliers. En 50 ans, plus de 1500 artistes sont passés par Arles, passés et présents, revisités par Isabelle Pasquier.
En 1970, quand le photographe Lucien Clergue crée avec Michel Tournier et Jean-Maurice Rouquette les rencontres photographiques à Arles, ça tient carrément de l'utopie, celle de croire que la photo est un art. 50 ans plus tard, les photos d'Andreas Gursky ou de Cindy Sherman s'arrachent à plus de 4 millions d'euros et Arles est au cœur de cette reconnaissance de la photo. Sam Sturze est le directeur des rencontres de la photographie.
En 1970, le grand débat à l'époque, c'est est-ce un art? Est-ce un document? Et la plupart des musées ont tranché. C'est bien évidemment un document. Donc promouvoir la photographie comme une œuvre artistique, c'est une petite révolution. Première édition, 3 expositions. 50 ans plus tard, 50 expositions et 1 300 000 entrées dans les expositions. Mais toujours le même esprit frondeur, décalé, qui a envie chaque année de réinventer la photographie.
Cette année, les femmes photographes sont très présentes à Arles. Les photos d'enfants dans les rues de New York, de l'américaine Hélène Levitt, les nuits de dérive dans Prague, sous le joug soviétique de Libouché Jarkov-Jakova, ou encore les stripteaseuses des fêtes foraines, sous le regard de Suzanne Meselas, des regards singuliers de femmes qui ont aussi écrit la grande histoire de la photographie. Aux rencontres de la photo d'Arles, Isabelle Pasquier, France Inter.
Et c'est à découvrir jusqu'au 22 septembre.
Merci Agnès Soubiran.